On a écouté une chanson de Babylon Circus qui était de la musique et du bruit. On est maintenant en ligne avec Alain Deneau. Alain Deneau qui a écrit un livre chez Eco, qui est paru chez Éco-Société. Le livre s'appelle Noir Canada. Puis il va être ici pour nous parler un peu du contenu de son livre, mais aussi de la situation dans laquelle il se trouve. Alain, bonjour.
Bonjour.
OK, on t'entend très bien. On va commencer tout simplement en te posant la question suivante. Toi, tu as écrit un livre qui s'appelle Noir Canada. Puis, qu'est-ce qui t'a amené à écrire ce livre-là qui porte sur les agissements des compagnies minières en terre africaine?
Ben, comme tout le monde, j'étais informé de la bonne réputation du Canada à l'étranger et chez lui. C'est-à-dire qu'on tient en haute estime le Canada en ce qui concerne l'activité de les projets de maintien de paix dans le monde, le développement, la réputation générale, l'éthique, une sorte de sens du devoir. Et au vu de cas sur lesquels on tombait en faisant des recherches quant aux relations postcoloniales de la part des pays du Nord en Afrique, on s'est rendu compte que cette réputation-là, à bien des égards, était usurpée, que le Canada ne mérite pas cette réputation du bon gars de la planète, pas toujours, en tous les cas, et qu'il y avait maint cas de figure qui donnait plutôt à penser que nous portons préjudice au continent africain. Et c'est au fil de ces cas-là qu'on en est, à l'analyse de ces cas, à leur appréciation, qu'on en est venu à écrire « Noir Canada, pillage, corruption et criminalité en Afrique ».
Donc, à partir de là, comme tu nous as dit, je vais d'ailleurs le dire, tu étais en conférence à Sherbrooke la semaine dernière pour présenter ton livre, puis aussi la situation à laquelle vous faisiez face. Puis, c'est là que tu as dit que tu as, je dirais, amassé une certaine quantité de travaux qui sont tous du domaine public, qui parlent justement des agissements de certaines compagnies qui sont justement canadiennes. Puis, à partir de là, vous avez reçu une mise en demeure de la part de Barrick Gold?
Oui, en fait, c'est deux choses distinctes, au fond, mais bon, peut-être pas tant que ça. Effectivement, il existe dans le domaine public une abondance de sources, de documents, de textes, de livres, de rapports, d'articles, faisant état de très nombreux cas d'abus, voire de crimes, commis en terre africaine par un grand nombre de sociétés canadiennes. Ce livre que nous avons écrit, donc Noir Canada, est la somme de données qui existaient déjà dans ces textes ou documents ou documentaires, en cinématographique par exemple, ou écrits. Et c'est comme si ce rapport que nous avons fait dans un premier temps sur les agissements du Canada en Afrique existait déjà. Il suffisait de colliger les données qui n'étaient peut-être pas toujours centrales dans les ouvrages que nous avons consultés. Parfois, c'était de telle page à telle page qu'il était question de telle société canadienne dans tel pays, ainsi de suite. Mais en regroupant cette information, on a pu avoir d'une manière générale un point de vue sur le rôle du Canada en Afrique. Évidemment, il a fallu citer des noms parce que si on nous aurait reproché sinon de parler en l'air. Donc, on a pris ces documents d'ONG, Global Witness, Human Rights Watch, Amnesty International, Paul Institute, ces textes, ces rapports d'experts mandatés par le Conseil de sécurité de l'ONU, ces dépositions faites au Congrès à Washington, ces livres d'africanistes, de journalistes, Colette Brackman, Dominique Rutten, etc. On a colligé donc ces informations et ça a donné notre livre. Et donc, parmi les nombreuses sociétés que nous avons eu à citer, parce qu'elles étaient elles-mêmes référencées dans les documents publics qui existent, se trouvait Barrick Gold. Et puis Barrick Gold, donc, nous a poursuivis quelques temps après la sortie du livre pour 6 millions de dollars pour diffamation, estimant qu'il n'était pas légitime de notre part de citer des documents qui existent dans le domaine public à son sujet, puisque nous ne sommes pas en mesure, ultimement et pour l'éternité, d'administrer la preuve. Bon, notre position par rapport à ça, c'est de dire que bon, ce qui nous intéresse dans tous ces documents, c'est l'ensemble, c'est le nombre, c'est la tendance, c'est ce phénomène même qui veut que de nombreuses sources dans le monde existent à propos des sociétés canadiennes en Afrique quant à des pratiques douteuses, voire critiquables, qui sont les siennes en Afrique. Et c'est cette tendance-là qui nous intéresse parce que à eux seuls, tous ces documents nous semblent justifier la tenue au Canada de travaux d'une commission d'enquête indépendante pour faire la lumière sur tous ces cas-là. Et c'est évidemment pas des auteurs isolés qui pourront aller au fond des choses. Je ne suis pas Tintin. Mais il y a lieu, au vu de tous ces documents, de faire le point sur ces agissements du Canada à l'étranger en demandant aux autorités politiques qui en ont les moyens de se prêter à ce travail.
Donc, on vous a poursuivi uniquement pour avoir, si on veut...
Briser l'omerta.
Oui, puis aussi en ayant accumulé un certain nombre de preuves, puis en ayant fait des liens entre certaines pratiques et certaines réalités, c'est la raison pour laquelle on vous poursuit.
Ben, le mot preuve n'est pas de nous. Disons qu'on ne prétend pas encore à la preuve, mais ce sont des allégations sérieuses, c'est-à-dire que les auteurs, les journalistes, les auteurs de rapports, les journalistes, les experts, les africanistes, les témoins du terrain font état dans maintes régions d'Afrique de cas d'abus ou de crimes. Là, on parle de pollution, par exemple, des suites de négligence industrielle. On parle d'expropriation violente, voire meurtrière au Ghana ou en Tanzanie. On parle de contrats léonins, c'est-à-dire des contrats qui sont signés à l'avantage absolu de la société privée et au désavantage total de l'état de droit, c'est-à-dire des populations, des suites de corruption, ainsi de suite. On parle de financement de guerre civile. On parle de trafic illégal, de trafic d'armes. Je veux dire, c'est abominable tout ce qui est rapporté dans la presse internationale ou dans des rapports internationaux ou dans des documentaires sur le rôle du Canada. Je ne parle pas des privatisations sauvages ou des barrages qui débordent et qui inondent les terres arables, des maladies qui s'en suivent, des bousculements sociologiques que cela... en cours. Bon, je veux dire, il y a énormément de cas graves qu'on recense dans le Nord-Canada et ceux qui nous poursuivent, c'est-à-dire la société Barrick Gold pour 6 millions de dollars au Québec et la société Banro par la suite pour 5 millions en Ontario, ces sociétés isolent ce qu'on dit d'elles et ne considèrent plus que les sources sur lesquelles nous avons tablé pour évoquer ce qui les concerne. Ce sont des sources que nous estimons crédibles. Mais encore une fois, notre travail est de montrer l'ampleur du phénomène, quoi, et de montrer à quel point il y a lieu ici de s'enquérir d'une exploitation de ce type-là. Et je me permettrai d'ajouter une chose, c'est que s'il est si important pour nous de nous poser ces questions-là, c'est que notre épargne à nous, Canadiens, que ce soit par les fonds publics d'investissement, la Caisse de dépôt et placement du Québec, ou des fonds privés, les fonds de retraite, les REER, les institutions bancaires, les polices d'assurance, ainsi de suite, tous ceux à qui nous confions notre épargne comme contribuables de tout genre, se trouvent à placer notre argent dans ces sociétés que nous citons dans le Nord-Canada via la Bourse de Toronto. Si on fait fructifier nos fonds, notre épargne, nos fonds privés, nos fonds personnels à travers des services financiers, c'est parce que ces gens-là, à leur tour, utilisent notre argent pour l'investir là où ils rapportent, c'est-à-dire notamment la Bourse de Toronto, dans ces sociétés que nous mentionnons. Et nous avons donc une responsabilité quant à ce qui advient de nos actifs. Et il faudrait qu'on se demande à quel prix pour les populations qui subissent l'exploitation canadienne, nous faisons fructifier notre épargne.
Super. On va justement parler des relations avec le Canada, la Bourse de Toronto et les compagnies minières tout de suite après la pause. Donc, on vous revient dans quelques instants seulement. À tout de suite.
On a vu toutes les autres crassies. Maintenant, on veut la manger crassie ou rien. Business, on a tout compris. jouer aux pompiers, oh, on a tout compris. Allez, dis aux hommes politiques, ils enlèvent nos noms dans les business, on a tout compris. Allez, dis aux hommes politiques, ils enlèvent nos noms dans les business, on a tout compris. Ils nous utilisent comme des chameaux, dans des conditions qu'on déplore. Ils nous mènent souvent en bateau, vers des destinations qu'on ignore. Ils allument le feu, ils l'activent, et après, ils viennent jouer aux pompiers, man. On a tout compris. On a gagné 600, en bas au Calama. On a gagné, en bas au Calama. On a tout compris. Gounde d'Ala Nyema Ganyo. On a tout compris. Gounde d'Ala Nyema Ganyo. On a tout compris. Boumake Boubara Malakani. On a tout compris. Madalami Dalami Gambenda. On a tout compris. Madalami Manamana Kanyenda. On a tout compris. Ngunda tala nyima kanyo. Ngunda tala nyima kanyo. Ils utilisent comme des chameaux, dans des conditions qu'on déplore. Ils nous mènent souvent en bateau, vers des destinations qu'on ignore. Ils allument le feu, ils l'activent, et après, ils viennent jouer aux pompiers, papa.
On a tout compris. On a tout compris.
C'est toujours le même scénario.
On a tout compris.
Les marchands d'illusions sont là.
On a tout compris.
Ils nous font rêver de bois.
On a tout compris.
Ils achètent nos consciences. Contre des miens, ma de l'homme de la mingambenda, ou ma de l'homme de la mingambenda, Ngunde tala nyema ganyo, Ngunde tala nyema ganyo, ou ma de l'homme de la mingambenda, ou ma de l'homme de la mingambenda, Ngunde tala nyema ganyo, Ngunde tala nyema ganyo, Ngunde tala nyema ganyo.
On est de retour en onde avec Alain Deneau, l'auteur du livre Noir Canada qui est paru chez Éco-Société. On va continuer l'interview. Moi, je voulais te demander comment ça se fait qu'il y ait autant de compagnies minières qui sont canadiennes. Je crois qu'on parle de 60% des compagnies minières qui se retrouvent à être canadiennes.
Oui, en effet, autour de ça, quoi, il y a plus d'une société minière sur deux dans le monde qui est canadienne. Mais il faut entendre par cela le fait que ces sociétés sont soit enregistrées au Canada ou cotées en bourse au Canada, principalement à Toronto. Mais toutes n'ont pas à l'origine des capitaux canadiens. On retrouve des sociétés australiennes, suédoises, belges, mauriciennes, américaines, et ainsi de suite, qui s'enregistrent à Toronto. Et pourquoi? Eh bien, parce qu'à Toronto, il y a ce qu'on appelle là-bas un climat d'affaires favorable pour l'industrie minière. Et pour comprendre pourquoi on en est arrivé là, il faut remonter aux années 1990, à l'époque où les cours dans le domaine des mines étaient à la baisse, et que le gouvernement du Canada, des suites de l'initiative de Whitehorse, a entrepris de créer des mesures favorables pour l'industrie minière. Le but du Canada était d'attirer les investissements étrangers au Canada, mais aussi de faire du Canada un pays d'envergure en ce qui concerne l'industrie minière, à travers le monde, quoi. Donc, de faire en sorte que les investissements et les initiatives minières mondiales proviennent essentiellement du Canada. Donc, c'est une initiative concertée. Et pour ce faire, ce qu'on a fait, c'est qu'on a concédé des avantages fiscaux considérables aux sociétés qui s'enregistrent au Canada par des formes davantage dans le domaine de l'investissement. Je pense aux actions accréditives, on explique dans le livre. On a incité les investisseurs à placer leurs actifs dans le domaine minier. On a facilité la spéculation dans la mesure où la divulgation d'informations s'est trouvée restreinte. C'est un peu technique, mais tout ça pour dire que la divulgation ne faisant pas l'objet de mesures contraignantes particulièrement aiguës, les sociétés minières d'exploration se sont trouvées à pouvoir faire miroiter des acquisitions dans une sorte de flou qui encourageait la spéculation. Et également, un autre point, c'est qu'on n'a pas contraint les sociétés minières d'exploitation, par exemple, au Canada, à expliquer au public les modalités selon lesquelles elles s'enrichissaient. Lesquelles modalités, comme j'ai expliqué tout à l'heure, peuvent être douteuses, quoi. Donc tout ça a amené les sociétés minières à trouver dans le Canada un lieu favorable pour l'exploitation minière. Je reviens sur la question de la spéculation, c'est tout à fait fondamental, dans la mesure où il y a des sociétés qui peuvent, des suites d'accords lyonnais, c'est-à-dire en passant par la corruption, puis en mettant de son côté un haut fonctionnaire qui a à charge de négocier au nom de l'État la cession dans le domaine privé de gisements jadis publics, par exemple, ça a été le cas au Congo, Kinshasa. Les sociétés qui acquièrent donc des gisements à l'étranger par toutes sortes de billets souvent critiquables peuvent ensuite faire valoir ces acquisitions-là à la bourse de Toronto sans nécessairement les exploiter, ce qui ne permet pas aux populations locales de développer leur économie puisque les gisements dorment là, je veux dire, sans que rien n'y s'y passe. Sans que les concessions soient exploitées, mais elles font l'objet à Toronto d'une spéculation, c'est-à-dire qu'on s'échange les titres sur la base des acquisitions faites ailleurs, et c'est ce qui permet aux sociétés de s'enrichir. Donc le Canada a favorisé ce type d'opération boursière, et qui plus est, donc ce serait le dernier point, mais non le moindre, les sociétés minières comprennent officieusement qu'au Canada, elles bénéficient d'une couverture juridique, c'est-à-dire que jamais on ne poursuit ici aux criminels, par exemple, des sociétés pour ce qu'elles auraient commis à l'étranger, malgré des rapports parfois pressants de l'ONU ou d'autres instances crédibles en ce qui concerne telle société pétrolière au Soudan, telle société minière au Congo, telle société en génie au Lesotho, telle société ferroviaire au Mali, ainsi de suite. Jamais, jamais ici, on ne laisse poindre l'ombre d'une menace envers ces sociétés pour ce qu'elles commettent à l'extérieur des frontières. Et cela fait, à notre sens, du Canada un paradis judiciaire pour les sociétés minières, un paradis judiciaire dans le sens où elles peuvent ici bénéficier des largesses de notre état de droit, tout en exploitant à sa guise potentiellement les ressources dans les pays du Sud. C'est ce qui expliquerait la bonne réputation du Canada dans ces milieux.
Aussi, il y a la participation de politiciens assez notoires, je crois, qui participent et collaborent à l'industrie minière. Est-ce que tu as quelques exemples?
Effectivement, dans le domaine minier et pétrolier, on retrouve, et pharmaceutique, Jean Chrétien a représenté auprès de différentes autorités politiques africaines des sociétés privées canadiennes, et pas des moindres. Mais ça a été la même chose de Joe Clark. Brian Mulroney a été, lui, membre du Conseil consultatif international de Barrick Gold dans les années 1990, à l'époque où la guerre sévissait dans l'est des Grands Lacs africains. On sait que Paul Martin, sans l'identifier à aucune société en particulier, n'a de cesse de parler de son intérêt pour l'Afrique, et ainsi de suite. Cela veut dire que les anciens premiers ministres du Canada peuvent, une fois à la retraite, faire bénéficier à des sociétés privées des contacts qu'ils ont obtenus alors qu'ils étaient au service de l'État. Normalement, on devrait considérer, c'est une position non pas juridique, j'avance là, mais politique, on devrait considérer que cette information que détiennent les chefs d'État au moment où ils occupent leurs fonctions publiques sont des informations qui appartiennent au domaine public et ne devrait pas être en quelque sorte vendu ou faire l'objet de transactions avec des sociétés privées qui en profitent, elles, dans un tout autre cadre au moment de signer des contrats avec des États souvent corrompus du Sud et souvent dictatoriaux, des États dont les dictateurs sont précisément soutenus par les démocraties occidentales. Donc il y a quelque chose là qui gêne beaucoup. Et c'est sans doute ce qui explique qu'on ne tient pas dans les milieux de pouvoir à ce que ce débat ait lieu publiquement aujourd'hui au Canada.
Donc, on va peut-être faire une courte pause. Toi, Alain, est-ce que tu veux nous donner une dizaine de minutes de plus?
Bien sûr.
D'accord, donc on se revoit tout de suite. De retour avec Alain Deneau, auteur du livre Noir Canada. On en est maintenant peut-être à parler de quelques exemples de pratiques ou de situations qui ont eu lieu en Afrique des suites d'ingérence de compagnies canadiennes, peut-être?
Oui, le problème avec une question comme celle-là, c'est l'abondance du choix, quoi. que ce soit en Afrique de l'Ouest ou de l'Est ou dans quelque autre région africaine, il y a lieu de découvrir des cas de privatisation de chemin de fer qui entraînent des pertes sèches pour les communautés locales puisqu'on ferme les gares au public, ou de mines à ciel ouvert qui, de par la poussière qui se trouve générée, provoque dans la communauté avoisinante des maladies pulmonaires en grand nombre, quand ce n'est pas l'arsenic et le cyanure qui se retrouvent dans les seuls points d'eau potable qui rendent les femmes systématiquement stériles du fait qu'elles multiplient les fausses couches, des barrages qui débordent sur des terres arables, la pêche est empêchée, le pâturage aussi, l'élevage est neutralisé, les microbes se développent parce qu'il n'y a plus la crue, la décrue des eaux, les tensions montent entre les communautés qui jusqu'à maintenant vivaient en paix. Bon, on appelle ça du développement. Quand il ne s'agit pas de ces accords léonins dont j'ai parlé, c'est-à-dire ces accords qui, par la corruption et la spéculation, se traduisent en un pillage institutionnalisé des ressources naturelles africaines, lesquelles ressources ont condamnamment auraient été relancées en 1997 par des sociétés canadiennes qui étaient insatisfaites du rapport qu'elles avaient entre le président qu'elles avaient contribué à mettre en place selon différents documents. Ainsi de suite. Donc, ces bouleversements, ici, nous les inscrivons sous l'appellation de développement. Et nous présentons au Canada notre État comme un ami de l'Afrique. Et il y a tout lieu de revenir sur ces considérations ô combien complaisantes et déplacées, étant donné le mode de rapport impérial que nous semblons entretenir avec les pays du Sud, notamment l'Afrique.
Vous avez parlé de développement. Est-ce que vous pouvez présenter l'ACDI, son image et son implication dans ce qu'on pourrait peut-être appeler une fausse vraie amitié?
L'ACDI, elle a deux rôles. L'ACDI, la première, c'est de servir de baume auprès des populations éprouvées par l'exploitation canadienne, c'est-à-dire qu'aux abords des mines, on creuse un puits, on crée une école ou un orphelinat, et on appelle ça du développement, alors que ça n'en est pas, c'est de la charité, et de la charité mal placée, quoi, qui est sans doute mue par beaucoup de mauvaise conscience. Et puis l'ACDI, donc, présente au Canada des fascicules, des dépliants, des reportages sur des vaillants Canadiens qui vont faire ça à l'étranger, qui sont souvent bien intentionnés, mais qui se trouvent en fait à soutenir indirectement une exploitation qui n'a pas de lieu d'être. Par ailleurs, elle finance des projets commerciaux de sociétés canadiennes en Afrique, les barrages dont j'ai parlé, la privatisation sauvage de chemin de fer dont j'ai parlé. L'ACDI peut être au cœur de ce type d'investissement qui profite au développement des sociétés canadiennes en Afrique, mais jamais très clairement au développement de l'Afrique, comme si le fantasme des sociétés canadiennes en Afrique et des Occidentaux en général était celui d'une Afrique sans Africains, quoi, d'une Afrique regorgeant de ressources sans êtres humains pour s'interposer. On finit par croire cela comme les l'écrivain Bolia le dit, par exemple. Et il y a aussi une autre instance qui est Développement et Exportation Canada, qui est une instance dont le budget est confidentiel. Il est impossible donc pour le public canadien de savoir ce qu'il en est, mais il reste que ces fonds publics servent, comme ceux de l'ACDI, à financer des projets industriels canadiens à l'étranger, dans les pays du Sud. Et cela porte à conséquence et rend mal à l'aise du fait qu'on ne puisse pas vraiment savoir ce qu'il advient de ce fonds.
Oui, vous êtes venu la semaine dernière à Sherbrooke, invité par le comité de recherche et d'éducation sur les médias en Estrie, dans le fond. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu du mouvement ou les gens qui souhaitent vous encourager à défendre votre liberté à diffuser ces informations-là dans votre livre?
Notre éditeur, Éco-Société, a organisé une campagne de soutien pour les auteurs et l'éditeur de Noir Canada, dont on retrouve les détails sur ecosociété.org. Et donc, à ecosociété.org, on peut suivre la campagne, y participer, suivre aussi le dossier de presse par rapport au livre. Et comprendre, en fait, un certain nombre de choses, à savoir que la liberté d'expression ne s'use que si on ne s'en sert pas, et sans doute aussi que la liberté d'expression s'arrête dans ce pays, à l'Afrique, aux questions africaines. C'est-à-dire que lorsqu'on s'enquiert de ce qui se passe quant au Canada en Afrique, on se rend compte qu'on touche là à un ordre de réalité qui est de nature à rendre caduque toute cette prétention canadienne à la bonté, à la magnanimité, à la générosité. Et ce serait, disons, l'envers du décor des prétentions canadiennes, et ça, il serait préjudiciable pour les intérêts canadiens que le public se saisisse de ces questions-là. Et c'est pour ça qu'on garde bien ce public d'être informé de ces choses, si ce n'est que sur la mode de dépêche absconse et tournée tout entièrement vers des belligérants sur le terrain, quoi. Quand il s'agit d'une guerre comme actuellement dans l'est du Congo. Il est très important de se saisir de cette information-là et de lire des ouvrages tels que Noir Canada, il y en a d'autres aussi, hein, je ne fais pas que de la publicité pour notre travail, de lire des textes critiques. Ce sont ces textes critiques qui actuellement sont menacés par les poursuites de 11 millions que nous intentent deux sociétés minières. On ne s'attaque pas seulement à un livre, mais à la possibilité même d'écrire de la façon que nous le faisons. Donc il est très important de défendre ces modalités d'écriture et de recherche-là et de comprendre à quel point il est important que la liberté d'expression serve à dire autre chose que quand il fait soleil, on peut dire qu'il fait beau, mais de voir qu'il y a matière à réflexion quant à des questions qui sont de nature à transformer nos régimes politiques. Et il faut de tout cœur souhaiter une participation du public à ces questions-là.
Comme par exemple, dans ton cas, c'est deux sociétés qu'on dit, juridiquement parlant, des entités morales, des personnes morales, seulement qui ont des fonds judiciaires de plusieurs millions qui se confrontent volontairement à une petite maison d'édition qui vaut, je pourrais même pas dire, mais qui vaut de loin les 11 millions total qui vaut beaucoup moins les 11 millions total qu'on lui réclame. Puis je me demandais, c'est quoi que ça implique comme poursuite?
Il s'agit d'une poursuite Bayon, manifestement. C'est notre impression, en tous les cas, d'un SLAP, là, un Strategic Lawsuit Against Public Participation, c'est-à-dire d'une poursuite qui a pour effet immédiat de neutraliser ceux qui se trouvent poursuivis avant même qu'un procès ait commencé, dans la mesure où, lorsqu'on est poursuivi, les frais judiciaires sont tellement élevés qu'il devient presque impensable pour ceux qui sont poursuivis de payer, de financer une défense digne de ce nom. Il faut payer des avocats, il faut faire de la recherche, il faut payer des équipes de recherchistes, parce qu'on est tenu de soumettre à la cour des documents. Nous sommes tenus de comparaître à des interrogatoires hors cours. Ça demande énormément d'énergie. Et si actuellement nous ne comptions pas sur le soutien de la population, et si nous n'avions pas droit au concours généreux de nos avocats ontariens et québécois, nous serions tout simplement en faillite avant même que le procès ait commencé du fait de ces poursuites-là. Nous sommes personnellement poursuivis, les trois signataires du livre, ainsi que l'éditeur par une personne morale qui, elle, effectivement, a des moyens quasi illimités et qui peut continuellement se laisser représenter au gré de ses avocats. Donc, c'est un problème là de rapport de force qui est évident, qui est criard, et cela nous donne à penser qu'un régime qui permet ce type de rapports inégaux n'est sans doute pas une démocratie.
Donc, c'est ce qui fait un peu le point sur le cas du SLAP, qui, en tout cas personnellement, lorsqu'une maison d'édition se fait poursuivre pour 11 millions, c'est plutôt ridicule. Donc, de toute évidence, il s'agit d'une manière d'empêcher les gens de participer en les ralentissant économiquement, puis tout simplement les démoralisant dans des recours judiciaires qui sont totalement injustifiés.
Avant même qu'un procès ait lieu, on peut être ruiné de sorte qu'on déclare faillite avant même d'avoir commencé.
Oui. Ben, c'est peut-être ce qui ferait le tour pour l'interview. Je ne sais pas si tu avais peut-être un mot de la fin ou tout simplement une information que tu veux partager avec les auditeurs, auditrices.
Si il s'agit de se mobiliser, il y a le site internet écosociété.org, il y a le livre lui-même. Apparemment, les instances du pouvoir ne souhaitent pas que le public soit informé de ce que contient Noir Canada, pillage, corruption et criminalité en Afrique. Et il y a aussi les... Il y a lieu de se renseigner, tout n'est pas parfait dans cet univers, mais il y a lieu de se renseigner sur les produits financiers éthiques pour ceux qui ont des placements. De parler à tout responsable financier à qui on confie son épargne pour s'assurer que nos fonds ne servent pas au financement de sociétés qui sont actuellement structurellement hors de contrôle.
Ben, génial, je te remercie beaucoup.
Moi?
Pardon?
C'est moi qui vous remercie.
Ah ben, ça fait plaisir. On va aller faire une pause musicale, puis au retour, on va avoir la chronique sur le théâtre des opprimés. Donc, à tout de suite.
Stabilisé dans les paradis fiscaux, tandis que les sociétés sont cotées en bourse à Toronto. La guerre dans les Grands Lacs qui...